Vous écoutez
RMC. RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Il est là. Il a bravé les kilomètres. Il est venu de Caen, mesdames, messieurs. Et il est arrivé. Pile poil à l'heure.
Je suis venu de Caen.
C'est Christian PC. Rebonjour Christian.
Rebonjour François.
Une heure dédiée à la maison. Et oui, et en ces périodes un peu étranges où on reste à la maison, franchement, ce rendez-vous a encore plus de sens puisqu'on a du temps pour bricoler, pour nettoyer, pour ranger. Et avec Christian, on se fait un plaisir de vous donner un maximum de conseils donc en ces périodes de confinement. Toutes vos questions bricolage maison, on les attend au 3216 ou via l'appli RMC et Direct Studio. Tout à l'heure, notre dossier de ce samedi, c'est entretenir les parquets, les meubles en bois, les lambris.
Mais oui, parce que, bon, autrefois, on entretenait tout ça, on bichonnait nos armoires, on bichonnait. Et puis maintenant, bah, ça s'est un petit peu perdu. Donc, on a finalement des meubles en bois, par exemple, c'était les armoires, les buffets, bah, qui sont devenus un peu plus ternes, qui sont encrassés souvent parce qu'on a accumulé.
Mais oui, bien sûr.
En mettant de la cire dessus. Donc, on va évoquer tous ces problèmes, toutes ces questions avec notre invitée Nathalie Lefebvre, qui est dirigeante des produits d'antan. Pour les spécialistes, c'était autrefois la PMSB. C'est les gosses qui étaient dans le faubourg à Paris, faubourg Saint-Antoine.
Tout d'accord.
Ce secteur qui était le royaume du meuble. Il y avait des sculpteurs, il y avait des vernisseurs.
Il y a encore quelques magasins de meubles.
Voilà, il y a encore quelques magasins de meubles. Mais enfin, bon.
Et puis aussi, comment rénover les meubles de jardin. Hein.
C'est vrai, on pourra parler aussi de.
C'est intéressant.
Comment dégrisailler, comme on dit.
Bien sûr. N'hésitez pas, hein, toutes vos questions sur ce sujet, sur l'entretien du parquet, des bois, des meubles, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, dès maintenant le 32-16 ou bien l'appli RMC Direct Studio. On retrouvera aussi votre coup de cœur tout à l'heure. On va parler d'énergie. Écoutez, n'hésitez pas, hein, vous le savez. Un témoignage, une question, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Et on attaque tout de suite avec Ahmed qui est avec nous. Ahmed qui veut témoigner ce matin, Christian, et on le retrouve avec plaisir. Bonjour Ahmed.
Bonjour
Ahmed.
Bienvenue.
Merci.
Alors confiné, merci. Ahmed, comme la plupart d'entre nous, forcément.
À moitié confiné.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire je travaille au CHU de Nice et...
Ah oui.
Et donc je vais quand il y a des urgences pour acheter des commandes pour les services de soins. Mais sinon, je travaille depuis chez moi en télétravail.
D'accord. Ok. Oui. Et donc forcément, vous passez malgré tout du temps à la maison et vous bricolez, oui. C'est ça ?
C'est ça.
Alors qu'est-ce que vous faites ?
Alors ça m'a permis de sortir tous les achats que j'ai depuis quelques mois, voire années.
Et qu'on a accumulé et dont on ne s'est pas forcément servi.
C'est ça. Et effectivement, donc j'avais un monteur de VMC que je n'ai pas installé depuis 3 ans.
Ah oui.
Et des fenêtres de toit, des clôtures.
Ah oui, c'est du lourd quand même.
Ah oui, c'était du lourd, oui. D'accord.
Effectivement, donc comme c'est du lourd et que ça doit prendre plus de temps, donc ça, c'était l'occasion jamais de...
Ouais.
De sortir et de mettre en place tous les stocks qui sont stockés depuis plusieurs mois.
Ouais, alors remarquez, une fenêtre de toit, on pense que c'est un gros boulot, mais ça se remplace assez facilement de l'intérieur.
C'est ça.
Et bon, en fait, c'est quoi ? Ça peut être une grosse journée, pas beaucoup plus. Hein.
Ben, une grosse journée pour quelqu'un qui bricole bien, mais quand vous n'êtes pas habitué
à ce genre de bien pose. Sûr. Oui, mais enfin, c'est quand même... On imagine que c'est très compliqué. Et alors, c'est le moment, effectivement, d'inspecter ces fenêtres de toit. Parce que, ça coûte quand même un peu, mais c'est pas une fortune. Et on n'imagine pas à quel point, quand on remplace une fenêtre de toit, on a un gain derrière.
Absolument, absolument.
On est d'accord. Hein.
Un gain de clarté.
Voilà,
de...
la luminosité d'abord.
Oui.
Le bruit quand il pleut. Bon, maintenant, il n'y a pratiquement plus de bruit sur les fenêtres actuelles. C'est beaucoup plus sympa. Ça se manie beaucoup plus facilement parce que les fenêtres de toit, au bout de 20 ans, faut 20. C'est 20-25 ans, une fenêtre de toit.
D'accord. Ouais. Après, ça s'abîme.
Alors, après, ça devient moins...
Bon, étonnant. Ahmed, vous avez encore 20 ans devant vous, là, ça va, pour la remplacer.
Oui.
Hein, tout et va surtout... Ma femme est contente. Et donc, elle ne me rappelle plus que j'ai des cartons de fenêtres de toit, de ventilateurs à la maison, de clôtures qui sont posées.
Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, de temps en temps, il y avait la petite pression de dire « Oui, regarde, ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait. »
Parce que votre VMC marchait plus, il n'y avait plus le moteur ?
Non, en fait, elle marchait, mais elle faisait du bruit de plus en plus.
Et les roulements.
Oui, absolument. Et donc, je l'ai remplacé. C'est silencieux, ça marche très bien et c'est parfait.
Ah, voilà. Vous allez avoir
donc, je gagne en confort.
Nickel,
à la
quoi.
Maison et je gagne en confort.
Avec votre femme.
Voilà, c'est ça. D'habitude, il y a des fois où le bricolage, c'est justement
source
les conséquences en sont parfois des tensions dans la famille. Mais là, c'est l'inverse.
C'est ça.
Tout est à l'envers, quoi.
En tout cas, un grand merci pour votre émission. Elle est superbe. Je vous suis le samedi matin, le dimanche matin.
Ah, c'est gentil.
Années.
C'est gentil, Ahmed.
Et en tout cas, bravo.
C'est très sympa. Merci. Vous nous appelez d'où ? Vous êtes où ?
À Nice,
d'accord. Oui. Bah, très bien. Profitez de votre week-end, Ahmed, et merci pour votre appel.
Merci à vous.
Merci, vous connaissez bien.
Bon courage.
À bientôt. Et voilà. Et tout comme Ahmed, vous voulez nous faire un petit coucou ce matin, poser une question à Christian PC ou tout simplement témoigner parce que justement, en confinement, vous avez fait des travaux, vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Vous voulez le raconter à la France entière. N'hésitez pas.
Votre 32-16. Faites-nous votre story de bricolage.
Oh là là, Christian qui commence à avoir un vocabulaire.
DIY story.
Commence à avoir un vocabulaire d'Instagrammeuse. Moi, j'ai un peu peur quand même. Faites attention.
DIY, vous savez, c'est DIY.
Ah mais bien sûr, je sais, évidemment, DIY. Dites-le avec l'accent pour voir.
DIY.
Ah oui, c'est encore mieux. Christian, il est temps maintenant de retrouver le conseil de l'expert.
RMC, votre maison.
Le conseil béton de Christian Pesset.
Et oui, alors attention, le conseil de l'expert en ce samedi matin, c'est comment nettoyer son balcon ou sa terrasse.
Oui, alors vous savez, le balcon, eh bien, en cette période de confinement, où les petites terrasses, bon, comme vous qui avez 200 mètres carrés de terrasse, mais pas tout le monde. Hein,
pourquoi 200 simplement? Oui,
parce que vous l'avez réduit.
Non, mais vous comptez que le premier étage,
c'est ça. Bon, eh bien, on a redécouvert, et notamment en ville, ces petits espaces.
Oui.
Mais alors là, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Eh bien, c'était d'une saleté absolument incroyable avec la pollution. La première des choses, c'est évidemment de le nettoyer, le balayer, mais aussi le laver. Alors, il y a quand même quelque chose à laquelle il faut faire attention. C'est attention en ville, ne pas noyer le balcon et surtout ne pas noyer les gens du dessous. Hein, parce que oui, il y a des conséquences.
Vrai.
Alors, vous savez, en construction, il y a normalement sur les balcons, il y a d'abord une évacuation de l'eau qui se prolonge par un petit tuyau. Ça s'appelle une piscette.
Hein,
Une piscette. Voilà, une piscette, et ça projette l'eau à l'extérieur. C'est-à-dire, ça évite que ça ruisselle sur le balcon
et ça tombe en dessous.
Et chez le voisin. Alors, très souvent, ce petit tuyau sur les immeubles anciens, il a disparu. Le trou d'évacuation, il est bouché. C'est le moment de rénover tout cela avec un petit morceau de tuyau plastique de 15 à 20 centimètres en le passant par le trou. Pourquoi? Eh bien, parce que faut pas oublier que vous êtes responsable là. Autant sur un terrain, vous n'êtes pas responsable de l'eau qui va chez le voisin. Autant là, vous pouvez être responsable du ruissellement parce que vous êtes obligé justement d'avoir cette évacuation de l'eau. Alors, il peut y avoir des conséquences parce que ça peut tacher la façade, mais ça peut aussi déranger les voisins du dessous. Et donc, vous êtes responsable, par exemple. Et même si quelqu'un a des matériels sur son balcon, etc., et qu'ils sont abîmés, vous pouvez être, votre responsabilité peut être engagée. Alors, pour ce qui est du nettoyage, souvent, c'est du béton. Quand c'est du carrelage, on le nettoie comme n'importe quel carrelage. Mais quand c'est du béton, il faut faire attention, il y a des produits qui peuvent attaquer le béton. Hein, par exemple, tout ce que les produits de nettoyage à base d'ammoniac.
Ah oui.
C'est pas bon du tout pour le béton. On dit que le vinaigre, on peut s'en servir pour tout. C'est pas bon non plus pour le béton. L'eau de javel à proscrire sur le béton. Donc,
et puis qu'est-ce d'ailleurs, que ça fait, l'eau de javel sur le béton,
bien, tous ces produits peuvent arriver à désagréger.
Ah oui,
le béton, ça s'attaque le ciment. Vous savez, dans le béton, il y a du ciment. Mm-hmm. Et donc après, vous avez des petits grains de sable, voire de gravier qui
ça désagrège un peu le...
Qui se désagrège. D'accord. Alors, en revanche, il y a des lessives classiques pour le sol, évidemment, mais le bicarbonate de soude, ça marche. Les cristaux de soude, bon, on en a plus souvent chez soi, mélangés à de l'eau tiède, on met un verre de cristaux de soude pour un litre d'eau. Le savon noir, ça, on a redécouvert le savon noir, ça marche très bien. Et puis, vous avez les nettoyants décrassants classiques. Pensez aussi à nettoyer la barre d'appui. Alors, la barre d'appui, c'est... En général, on se fait le dos, faut pas avoir une chemise blanche. On voit pratiquement la grille qui s'affiche dans le dos. Donc, vaut mieux faire attention. Faut aussi le nettoyer. Profitez-en pour, si vous pouvez vous en procurer, trouver un grillage à mailles fines pour protéger justement ce garde-corps jusqu'en bas. Parce que vous allez en plus avoir des enfants qui vont aller se balader là. Mmh. Ça sera embêtant que le doudou s'envole par l'espace qui serait laissé en dessous du garde-corps. Donc vous pouvez mettre simplement un drap hein, si vous n'avez pas de grillage. Assurez-vous quand vous nettoyez votre balcon qu'il n'y a personne dessous, c'est tout bête. C'est pareil, si jamais vous avez quelqu'un qui passe en dessous, alors en ce moment il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, il y a beaucoup de joggers le soir, mais il n'y a pas grand
ça
monde dans les rues.
Ça peut les rafraîchir, cela dit.
Mais c'est pareil, si vous tachez les vêtements de quelqu'un, eh bien vous pouvez... Oui.
On est responsable, bien sûr.
Alors bon, on peut en profiter pour mettre un éclairage provisoire aussi pendant cette période. C'est sympa de pouvoir prolonger la journée. Alors là, qu'est-ce qu'on prend? On prend un câble multiconducteur. On prend, si on peut, une douille étanche et une fiche étanche. Sinon, on les prend en matière plastique. Et puis, une ampoule, évidemment, au bout. Et puis on enroule tout ça le soir pour pas que ça reste à l'extérieur si ça n'est pas du matériel étanche. Côté mobilier, eh bien il y a encore un certain nombre de grands immeubles qui livrent. Je crois par exemple qu'IKEA continue à livrer. Voilà, vous trouvez quantité de, vous savez, des petites chaises bistrot pliantes. Mais c'est peut-être l'occasion aussi de mettre une table abattante.
Ah oui.
Table abattante, c'est qui vous permet comme ça d'avoir une vraie table. Attention quand même à la façade. Il faut pas que vous soyez dans un immeuble où la façade a eu une ITE, isolation thermique par l'extérieur, parce que là vous n'avez pas le droit de percer, évidemment, parce que sinon ça.
On perd tout le bénéfice du système.
Bon, on perd tout, mais on crée un pont thermique. Voilà, en gros les quelques conseils qu'on peut donner, mais c'est bien sympa de se réoccuper de ce balcon.
Et nous avons Manuel qui a une question sur ce sujet, mon cher Christian d'ailleurs. Bonjour Manuel.
Bonjour François.
Bonjour Manuel.
Vous nous appelez d'où Manuel?
Au nord de Lyon.
Nord de Lyon. D'accord. Et on vous écoute.
Voilà, j'ai une terrasse, une allée qui va du portail jusqu'au garage, qui fait à peu près 80 mètres carrés. Et j'ai un petit peu derrière des pavés que j'ai mis il y a 25 ans à peu près. Et tout au début, c'était joli, c'était beau et tout ça. Et puis à chaque année, maintenant, ça devient gris, ça devient noir, ça devient... Il y a de la mousse et j'ai passé bien sûr les produits que vous venez de lancer, de la Javel.
Non, il ne faut pas.
Et ça fait exactement ce que vous me dites, ça fait des petites perles de sable, et donc j'ai changé quelques pavés. Et puis là, je voudrais donc nettoyer, puis avec un produit adéquat, et puis après passer, peut-être qu'il existe un vernis qu'on passe dessus pour protéger ou
quoi. Oui, alors vous avez une marque, je n'ai pas d'intérêt particulier, mais qui s'appelle Technicil.
Technicil,
qui a une gamme absolument prodigieuse de produits. Ce sont des grands spécialistes du nettoyage. Et effectivement, vous avez par exemple un produit qui va vous donner le... alors d'abord, il y a des produits de nettoyage de fond. Là, vous pouvez, sur certains produits ici, par exemple, vous avez des pavés, qui sont des pavés en grès, vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression, en y allant mollo quand même, mais ça dépend de la dureté du matériau, parce que souvent, on abîme des matériaux, notamment ce qui est, par exemple, pierre reconstituée. Si on y amène la buse d'un nettoyeur haute pression trop près, ça fait des trous, tout bêtement.
Donc c'est du béton.
Voilà, alors si c'est du béton, il faut faire attention. À partir de là, vous allez avoir des shampoings, des produits qu'on va appeler shampoings. Et ensuite, vous pouvez avoir des produits de traitement qui sont des produits qu'on va qualifier globalement de la famille des hydrofuges, c'est-à-dire qui repoussent l'eau. Il y en a même, et c'est assez sympa, qui donne l'effet du pavé mouillé en permanence.
Ah oui, c'est bien, ça c'est bien.
Voilà, ça c'est sympa. Donc, bon, il existe d'autres marques. Je pense à celle-là. C'est des produits, attention. Hein. On pense que la terrasse, bon, on pense un petit coup de nettoyeur haute pression, un coup de balai et puis une lessive. Ben, c'est pas ça. Il y a des produits. Oui, c'est ce que vous avez fait finalement.
Hein,
hein, et donc après, c'est des catas parce que effectivement, les pierres se tachent. Elles sont parce que la plupart des pierres, on pense que ça n'est pas abîmé. Parce que c'est très solide, mais en fait c'est poreux. Vous savez, beaucoup de pierres sont poreuses. Hein. Quand on les regarde de près ou si on les regarde au microscope, il y a des fois plus d'air entre les grains qu'il n'y a de grains de silice, par exemple. Mais donc voilà, prenez cela et encore une fois, si vous avez un nettoyeur de pression, c'est tellement spectaculaire.
Oui, j'en ai un,
ah oui, mais c'est tellement spectaculaire qu'on a tendance à continuer à passer, à etc.
Voilà. Et oui.
Et oui. Ouais, parce que moi j'ai vu qu'en passant avec Karcher là, ça nettoie, mais l'année d'après c'est pareil.
Ah ben ça, voilà. Même pas l'année d'après, des fois c'est quelques mois. C'est un outil extraordinaire, le nettoyeur à haute pression. Mais d'abord, il faut faire attention à la buse qu'on utilise. Vous savez, il y en a une par exemple qui est redoutable. Alors ça vous décape tous, c'est les buses rotatives.
Hein. Ah, j'en ai une,
ouais. Bah, voilà, vous en avez une, vous savez, c'est en forme de cône, là. Ah, ça nettoie, hein. Mais vous passez des fois au travers de la dalle, quoi.
D'accord, bon, merci beaucoup.
Je vous en prie. Voilà, merci Manuel.
Vous. Bonne journée, merci François, merci Christian.
Merci de nous avoir appelés. Ouais, bon week-end.
Bon week-end, au revoir.
Manuel nous a appelé au 32-16. Et si, tout comme Manuel, vous appeliez ce matin Christian PC pour poser une question bricolage maison, n'hésitez pas. 32-16, tiens, dans un instant, on va parler de l'entretien du bois, du parquet, des meubles en bois, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. 32-16 ou bien l'appli RMC Direct Studio.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Le chef des Burgondes est au château. Il exige un entretien immédiat.
Ah oui, c'est exact, le convoqué. Bon, faites entrer.
Votre maison.
Allez, montrez, poncez parquet.
D'accord, je pense.
Non, poncez parquet, avec grand cercle, poncez parquet, poncez.
Calmez-vous.
Poncez parquet.
On ne peut pas lui répondre.
Poncez hein? Parquet.
Il finira bien par se lasser.
Poncez parquet.
François Sorel.
Christian PC.
Ah là, c'est pas ce que Christian ponçait.
Oui, c'est...
Ah bah oui, forcément.
Je ponce, donc je suis.
Mais poncez parquet. Il est 7h27, le week-end des experts, et Christian PC nous accompagne. Et on va parler justement des parquets, des meubles en bois, des lambris, comment entretenir tout cela, mais aussi les meubles extérieurs. Et on va en parler avec notre invité, Christian, qui est là.
Oui, nous allons en parler avec Nathalie Lefebvre, qui est en ligne, qui nous attend. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Bonjour. Et puis tiens, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à... Vous nous écoutez, vous avez des questions sur l'entretien du bois, de vos meubles, du parquet. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, on se fera un plaisir d'écouter vos questions. Et Nathalie et Christian se feront plaisir d'y répondre.
Voilà, alors Nathalie, vous êtes la responsable de produits d'antan, c'est cela ?
Oui.
Hein, qui est une maison très ancienne, je citais tout à l'heure la PMSB. Ça remonte à quand ? C'est une entreprise qui est dans ce qu'on appelle le Faubourg, hein, qui est la patrie du bois à Paris.
Oui, c'est ça. Aussi loin qu'on ait pu retrouver les papiers, 1922.
Ah oui, 1922. Mon père a peut-être été votre client, parce qu'il était dans le domaine du bois. Il était à cette époque-là dans le domaine du meuble, un peu plus tard, dans les années 30. Et justement, ouais. Il travaillait dans le Faubourg Saint-Antoine, qui était là, vraiment, il y avait des fabricants de meubles, des sculpteurs, des vernisseurs, plus qu'à tous les coins de rue. Hein.
C'est ça, avec tous les ateliers. Oui.
Voilà, il y avait beaucoup d'ateliers. On va donc parler avec vous de l'entretien des meubles, de l'entretien du bois en général. Alors, on va peut-être commencer par le parquet, parce que c'est ce qui est le plus accessible immédiatement et ce qui se salit le plus. Un parquet. Comment on l'entretient ? Qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? On va prendre le cas du parquet ciré, ce qui est le grand classique.
Alors, une fois de temps en temps, on peut décrasser pour le retirer, mais ce n'est pas forcément nécessaire, parce que s'il est bien entretenu régulièrement, il n'y a pas de raison.
Oui, décrasser. Et alors, tout de suite, on le décrasse comment ? Et avec quoi ?
Alors, si vraiment il y a besoin, parce que ça fait une accumulation depuis des années de cire, on prend un décrassant, un produit décrassant qui va nous aider un peu, pas à grandes eaux, mais un peu pour ramollir un peu les excès de cire. Et puis, à l'ancienne, avec de la laine d'acier ou ce qu'on appelait la paille de fer.
La paille de fer, moi j'ai connu ça. Avec, ça existe toujours, les espèces
patins.
De chouettes, les patins avec une sangle au-dessus. Il faut aller dans le sens du bois, hein, dans le sens du fil. Hein.
Oui, alors les patins de laine d'acier qu'on trouve maintenant ne sont plus avec sangle, se coincent vraiment sous le pied.
Ah ouais.
Ce qu'on trouve avec sangle, c'est les brosses à parquet. Ouais.
Ah oui, oui.
On trouve toujours ça, oui, pour les illustrer.
D'accord. Donc la paille de fer, parce qu'on a peur de rayer le parquet, mais ça permet donc de le remettre pas complètement à nu, parce que là on n'est pas dans le ponçage, mais tout de même ça permet d'enlever les taches aussi, non?
Oui, bien sûr, ça décrase vraiment, ça retire vraiment toute la partie en surface, et c'est en effet très utilisé pour les parquets cirés.
D'accord. Alors, quelle cire on met? C'est de la cire d'abeille toute bête ou il y a des produits spécifiques?
En général, c'est quand même plus simple d'utiliser des cires liquides.
Oui.
Du coup, elles sont quand même légèrement diluées avec souvent de l'essence de térébenthine.
Ce qu'on appelle de l'encaustique?
Oui, elles sont prêtes à l'emploi en fait. C'est plus facile parce que de l'encaustique, c'est plus de la pâte.
Oui, c'est ça.
Et dans ce cas-là, on peut utiliser ça. C'est ce que faisaient nos grands-mères.
Oui.
Mais il faut un peu la ramollir sur une source de chaleur parce que c'est difficile sinon à passer.
Ah oui, parce qu'autrefois, on cirait à chaud. Hein.
Oui, tout à fait. Et puis à genoux.
À genoux,
oui. Alors que maintenant, si on veut redonner un coup de cire à un parquet, on va plus travailler avec de la cire liquide, avec une pulvérisation. Et puis éventuellement une petite monobrosse, une petite lustreuse pour vous aider quand même.
D'accord. Alors. Bon, les parquets cirés, ça commence à être un petit peu du passé. Il y a énormément de parquets qui sont vitrifiés, c'est-à-dire qu'en fait, qui sont vernis, mais ils sont souvent ternes. Il y a un moyen de leur redonner un coup de jeune?
Oui, tout à fait. Oui, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des rénovateurs, ou parfois le terme qui est utilisé, c'est du métallisant.
Ce sont des produits
qui permettent d'éviter quand même de tout reponcer, tout revernir, qui est quand même un travail plus ardu. Et ça marche très très bien. Vous le passez pur sur un parquet qui est un peu défraîchi, si tant est qu'il reste du vernis.
D'accord. Ça s'applique comment? C'est à la serpillière
Oui, c'est ça.
Ouais.
Ça s'applique directement à la serpillière, pur. Vous le laissez un peu poser, ça va faire un peu une pellicule.
D'accord.
Et après, pareil, vous prenez soit une peau de mouton, soit une brosse lustreuse, et puis vous venez bien lustrer, faire briller un chiffon sec.
Mais alors,
il
faut faire attention de le mettre en allant vers la sortie, parce que sinon, on se retrouve coincé. De l'autre côté, on va marcher dessus, c'est pas bien. Hein.
Nathalie Christian, nous avons Janine au 32-16. Bonjour Janine.
Et bonjour.
Et bienvenue Janine.
Bonjour Janine.
Bonjour.
Alors, vous retrouvez avec plusieurs vieux meubles en bois, c'est ça?
Oui.
D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez en faire de ces meubles?
Elle a deviné. C'est pourquoi je vous appelle. C'est pour les rénover.
Et voilà.
Voilà.
Donc alors, on va prendre un exemple. Alors donnez-nous un exemple d'un meuble que vous voulez rénover et on va interroger Nathalie Lefebvre à ce sujet.
Un chevet. Par exemple, un chevet en bois, je ne sais pas ce que c'est comme bois. Il est marron, il est tout moche, il n'est pas très propre et je voudrais le relooker, le ramener à une couleur un peu plus claire dans les beiges, dans les gris, enfin de ce qui est.
Bon, on va demander à Nathalie. Donc alors, la méthode là, alors un chevet, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous appelez un chevet? Le
C'est le chevet de nuit.
D'accord, ok.
Vous savez
okay. Alors Nathalie, la méthode, l'ordre des choses.
Alors la première chose à savoir, vous voulez l'éclaircir, ce qui est très bien, enfin, ce qui est beaucoup d'actualité, mais vous voulez garder quand même le bois, l'apparence du bois, ou vous voulez le repeindre?
Oh, pas spécialement, oui, c'est pas beau comme bois, oui, c'est vrai que je pourrais le poncer, et puis pour garder les veines du bois, et faire une pâte, mettre une pâte, je sais plus comment, j'avais fait ça il y a très longtemps, et j'avais plus envie, puis là, bon, j'ai dit...
Alors, Nathalie, on va peut-être commencer d'abord par un décapage, non?
Voilà.
Oui, si vraiment vous voulez le remettre à nu et retrouver les veines du bois, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que le décapage.
D'accord.
Mais alors,
c'est plus compliqué.
Ouais. Alors, ça se décape comment?
Plus facile, c'est de passer une laine d'acier, encore une fois, enfin une paille de fer, on appelle ça une paille de fer ou une laine d'acier, pour retirer tous les excédents, ou un papier à ponçage fin pour retirer tous les excédents. Et après, dans ce cas-là, vous passez directement une peinture d'après, un gesso, ce qu'on appelle un peu pour couvrir un peu tout le bois foncé. Et puis vous passez n'importe quelle peinture qui vous fait plaisir. Après, vous pouvez faire des essais avec deux couleurs de peinture et puis vous frottez un peu pour donner un petit aspect vieilli. Vous jouez avec deux couleurs. Vous mettez, si vous voulez la faire ressortir, ou alors une peinture standard. Ça va être le plus rapide.
Voilà, oui, quelque chose de rapide, parce que c'est pas...
En ce moment, on a un peu le temps, hein, remarquez.
Oui,
non, mais... Moi, je suis retraitée, hein, j'ai le temps toute l'année.
Alors, est-ce qu'on peut faire ça à l'intérieur? Il n'y a pas de risque, ou est-ce qu'il faut plutôt se mettre sur un balcon, sur une terrasse, si on en a une?
Alors maintenant, on a des décapants, ce qu'on appelle des décapants écologiques, qui sont très très efficaces, qui sont testés, qui sont très efficaces, ce qui fait qu'on peut quand même plus facilement travailler à l'intérieur avec ces décapants.
D'accord.
Donc, si en effet, vous prenez les décapants standards qui sentent un peu et tout ça, il vaut mieux se mettre en extérieur ou ventiler.
On met quand même des gants, on laisse la fenêtre ouverte, non?
Oui. Décapants écologiques, pas forcément en fait. Hein.
Ah bon.
ils sont vraiment très très bien. Oui.
Très bien. Bon, ben voilà, Janine. Janine.
Alors, oui, je peux vous poser une question.
Oui, bien sûr. Bah, vous avez déjà le chevet qui est fait, hein, quasi. Hein, là,
d'accord. Alors maintenant, il reste la table qui est carrelée. Elle est du bois, il y a du bois tout autour.
Oui.
Un bandeau de bois et un carrelage foncé également, hein, moche comme tout.
Qui ne vous plaît pas non plus.
Mais c'est vraiment moche chez vous. Hein.
Oh, mais c'est affreux.
Bon.
Alors, un carrelage, vous avez possibilité aussi de le peindre. Mais alors, vous avez sinon des produits qui sont très, très sympas et qui sont très tendances, qui sont des produits, des poudres métalliques. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais ce sont des poudres métalliques que vous mélangez avec un peu d'eau et qui font un enduit. Et ça vous fait, vous pouvez recréer un aspect métal.
Sur du carrelage?
Oui, sur tout type de support.
Ah oui, c'est sympa.
Et donc ça peut être sympa si vous voulez. Bon, vous pouvez mettre de la peinture sur votre carrelage, mais on verra toujours les traces du carrelage. Alors qu'avec avec de la poudre métallique, vous mettez un petit enduit pour combler en fait les joints et vous avez des aspects métal. Enfin, c'est de la poudre métallique, donc vous avez vraiment l'impression d'avoir du métal ensuite. Et vous avez zinc, vous avez laiton, vous avez fer. Enfin, vous avez plein de choses comme ça.
D'accord.
Ça s'appelle style métal, c'est vraiment super, c'est facile à utiliser et ça peut relooker vraiment bien un meuble comme ça ancien.
Ouais. Puisque vous parlez métal, dans les meubles, dans les objets d'ameublement, il y a aussi des ferrures. Alors souvent ça c'est encrassé, parfois c'est un peu rouillé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les déposer, les démonter? Mais c'est pas toujours facile. Et est-ce qu'il y a vraiment des produits qui permettent de redonner un beau look à ces ferrures autrement que de les peindre en noir? Parce que c'est souvent ce qu'on fait finalement.
Oui. Alors si vous avez la possibilité de déposer, évidemment c'est préférable, surtout si elles sont très encrassées. Si elles ne sont pas très encrassées, ce n'est pas forcément nécessaire. Après, vous avez des produits forts, mais qui peuvent être compliqués à utiliser s'il y a du bois à côté, vernis ou ciré, parce qu'il va falloir faire très attention à ne pas déborder. Et vous avez un produit qui est vraiment très très bien, qui décrasse les métaux et qui n'abîme pas, au contraire, qui nettoie les vernis. L'eau japonaise, je ne sais pas si vous connaissez.
L'eau japonaise?
Oui.
Non.
Alors ça, c'est vraiment bien, parce que ça nettoie les métaux. Et si ça touche le vernis, ça va le décrasser, mais ça ne va pas l'abîmer.
Ah d'accord.
Donc ça permet de redonner un coup sur le meuble en vernis, par exemple, et sans abîmer en fait le bois. Si vous avez du bois ciré ou qui n'est pas encore traité, il va falloir faire attention parce que la plupart des produits qui vont vous permettre de bien raviver vos ferrures peuvent abîmer le bois.
Ludovic est avec nous au 32-16. Bonjour Ludovic.
Bonjour, voilà, je vous appelle. On a rénové une maison et en haut, au premier étage, on a posé un plancher châtaignier. On l'avait pas encore traité, il était tout brut et bien sûr j'ai oublié de fermer le Velux et donc ça a pris un peu sur le plancher et ça fait une tache. Donc je pense qu'il faut déjà le poncer pour enlever cette tache ou il y a une autre chose à faire.
Non, c'est le ponçage, c'est le plus efficace et surtout si vous le faites très rapidement après que cet incident soit arrivé, vous allez savoir en principe le ravoir sans trop entamer le bois.
Ouais.
Si vraiment ça reste encore, même après le ponçage, vous n'avez pas d'autre solution que de passer un peu d'éclaircisseur.
Ok.
Qui vous permettra de compenser, de récupérer la même teinte, la même couleur que le bois d'à côté.
D'accord.
Il faut procéder par ordre.
Donc d'abord on ponce,
Oui. On voit ce que ça donne. Et okay. Si jamais on n'arrive pas à récupérer, là, il faut passer de l'éclaircisseur, c'est ça, hein?
Oui, éclaircisseur. Okay.
C'est...
Éclaircisseur tout prêt, en fait, prêt à usage, ou à l'ancienne.
Des feuilles de l'oseille?
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est acide oxalique. Hein.
Acide oxalique, sel d'oseille avec un peu d'eau, et puis vous faites votre mélange.
Voilà, c'est un bon truc, ça. Puisqu'on ouais. parle de parquet poncé, donc, si je veux poncer mon parquet, avec quoi je le ponce?
Alors, si on parle de parquet, on est d'accord qu'en général, on parle de surface assez importante.
Oui.
Donc, à la main, à quatre pattes, avec du papier à poncer, c'est quand même parfois compliqué.
Vous voulez que je vous fasse hurler de rire? J'ai testé un service hier. J'ai testé un service par générosité, je ne le citerai pas, pour de conseils en ligne de bricolage. Et j'ai précisément dit, j'ai un parquet à poncer, qu'est-ce que je fais? Et le conseiller m'a dit, vous prenez une cale à poncer et du papier très fin.
Non, c'est pas possible. Vous pouvez le faire sur un meuble.
Voilà, on est bien d'accord.
Ou une table, mais pas
qu'est-ce qu'on fait? On prend quel type de ponceuse?
Alors, si vous avez déjà fait, vous louez une ponceuse à parquet, les ponceuses assez lourdes avec un gros rouleau, et surtout ouais. si votre parquet est très abîmé, ça sera nécessaire parce que ça permettra de vraiment retirer les rayures, les écarts.
C'est l'idéal, mais c'est lourd, hein, et puis il faut savoir s'en servir.
Il faut savoir s'en servir parce que sinon vous pouvez faire ce qu'on appelle des vagues, en fait, ouais. et ça c'est très embêtant. Après, vous avez une possibilité qui est quand même aisée et qui est plus facile, pour une personne qui n'est pas
spécialiste.
C'est ce qu'on appelle les monobrosses lustreuses, en fait, les petites machines, vous savez, avec des disques.
Oui, on n'y pense pas assez, ça, parce qu'on pense tout de suite ponceuse, machine lourde, mais les cireuses ont des disques qui permettent de poncer.
Voilà, on a des disques en fait, qui s'adaptent dessus à poncer, qui vont du gros au fin, donc on peut passer le gros pour dire de dégommer un peu et de retirer le vernis, et ensuite terminer au fin avant de retirer ou de revernir. Et une lustreuse, ça sera, même si on doit la louer, qu'on n'en a pas, parce qu'on n'avait pas de parquet avant, ça sera plus facile à manipuler, moins lourd et moins de risque de faire ces vagues.
C'est vrai.
Et vous arriverez quand même à retirer le vernis.
Quand le bois est complètement poncé, quand il est neuf, c'était le cas de Ludovic à l'instant, est-ce qu'il ne faut pas appliquer ce qu'on appelle un fond dur pour que ça nourrisse le bois? Est-ce que ce n'est pas nécessaire, ça, quand le bois est vraiment neuf?
Si, fond dur, ce qu'on appelle fond dur ou bouche-port. Dans le jargon, on l'appelle fond dur ou bouche-port. Si, c'est très bien parce que ça va permettre de remplir quand même le bois et de le renforcer, et ça va consommer moins de vitrificateurs vernis derrière, en fait.
Et alors, la grande mode, c'est le huilage des parquets. Moi, je suis extrêmement réservé. Quel est votre avis?
On a des très bonnes huiles hein, qui ont un très bon rendu et qui protègent bien. Mais l'huile, c'est un peu comme la cire, c'est différent, ça fait partie des choix de chacun. C'est moins protecteur qu'un vitrificateur.
Oui, ça c'est clair. Mais les vitrificateurs, souvent, c'est trop brillant, c'est moche. Il y en a des satinés qui sont à peu près corrects.
Mais parce que justement, durant des années, on n'avait que des vernis brillants.
Ah ouais.
Parce que le vernis, par définition, il est brillant.
Et oui.
L'agent matifiant, on le met après, par définition, il est brillant.
Mmh.
Mais maintenant, vous avez des vernis qui sont mats, qui sont satinés, qui donnent l'aspect ciré. Mat, vous ne voyez rien. Et vous avez même maintenant des mats effet nature, c'est-à-dire que souvent, les clients, après avoir poncé un parquet, il est beaucoup plus clair.
D'accord.
Et souvent, ils veulent absolument, ils le découvrent beaucoup plus clair, beaucoup plus beau, ils veulent absolument qu'il reste comme ça.
Oui.
Et même un vernis mat standard, il va toujours réchauffer un peu la couleur.
C'est sûr.
Mais maintenant, vous avez même des vernis mats qui vont vous laisser vraiment l'effet nature. Il y a du pigment blanc léger à l'intérieur de ces vernis.
Mmh.
Et ce qui fait que le bois tel que vous l'avez après ponçage va rester comme ça. Et mat effet nature, eh bien, vous avez un parquet qui est très bien protégé pour les taches. Et vous avez l'impression qu'il est tout à fait brut.
Nathalie et Christian, pour terminer rapidement, la question de Pierre. Comment dégraisser une rampe en bois verni qui a 25 ans, il est dans un appartement qui est dans les Alpes, sans enlever le vernis, sans produit nocif, est-ce que c'est possible? Et c'est en intérieur. Hein.
Ouais, la popote, non?
La popote, oui, tout à fait. Il veut faire quoi?
Il veut le dégraisser sa rampe en bois verni.
Il veut dégraisser sa rampe. La popote. La popote ou, je vous dis, l'eau japonaise.
La popote qui n'est pas gitane, parce que vous connaissez bien mon popote le gitan, mais ça, c'est autre chose. comment ça s'applique? Ça se présente comment? Forme de lait, non?
Oui, c'est un lait que vous appliquez en général avec de la mèche de coton.
Oui.
Vous faites un petit tampon, vous faites des mouvements circulaires, ça vous décrasse le vernis et ça vous le refait briller.
Nathalie, ouais, merci pour tous ces conseils. Merci beaucoup.
Voilà, produit d'antan, ça marche par Internet. Ah, je vous ai ajouté aussi une petite chose, c'est que, par modestie, Nathalie ne l'a pas cité, mais elle a reconverti en ce moment une de ses lignes de production pour faire du gel hydroalcoolique.
Ah, très bien. Bah, bravo Nathalie et merci en tous les cas pour vos conseils et pour tout ce que vous faites. Christian, on poursuit dans un instant avec les questions des auditeurs et puis votre coup de cœur. Mais auparavant, cette semaine, dans ce rendez-vous maison, je vous offre un lampadaire avec Mano Mano. Vous allez pouvoir emporter donc ce luminaire moderne en bois sur pied. Après, vous pourrez le traiter. Là, il est neuf, donc il n'aura pas besoin, mais après, oui. Parfait pour décorer votre intérieur ou même habiller un extérieur. Ce lampadaire Joshua, c'est comme ça qu'il s'appelle, vous pouvez le remporter en nous envoyant tout simplement maison au 732-16. Vous tapez maison sur votre mobile, vous envoyez ça au 732-16 et vous participerez au tirage au sort automatiquement. Attention, SMS surtaxé. A tout de suite donc avec Christian.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Il est un petit peu plus de 8h moins le quart. Merci d'être avec nous et un bon réveil si vous venez d'arriver sur RMC. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous maison. Et avant de retrouver la météo et les infos, et ensuite votre rendez-vous forme santé avec Christian Réquia, Christian Pessé. On enchaîne tout de suite avec vos questions au 32-16. Et c'est Michel qui nous attend. Bonjour Michel.
Bonjour Michel. Oui, bonjour. Merci de me prendre au téléphone.
Bienvenue.
Et bravo pour votre émission.
Merci.
Voilà ma question. J'ai fait construire donc une maison il y a 9 ans. J'ai fait installer des blocs portes en bois exotique d'une marque française bien connue.
Oui.
Il y a 2 ans, j'ai retrouvé un petit peu de poussière, mais j'ai pas fait attention au pied d'un chambranle. L'année dernière, le tas a été plus important, donc j'ai regardé, et là, je me suis aperçu qu'il y avait des trous.
Des trous dans quoi? Dans
le chambranle.
Dans le chambranle.
Dans le chambranle.
Parce que ça m'étonnait que ce soit dans les portes.
Non, dans le chambranle.
Oui.
Et donc, j'ai traité avec un produit, avec du xylophène. Hein. Mmh. J'ai injecté tous les trous avec une aiguille, donc. Après, on m'a dit que de toute façon, ça ne servait à rien parce que c'était le trou de sortie de la bête.
Exactement. Oui, mais voilà. Ça, si. Non, on vous a quand même dit une bêtise. C'est que, certes, c'est le trou de sortie de la bête, mais c'est aussi un trou par lequel vous pouvez mieux pénétrer le bois.
Mais oui, pour traiter.
D'accord.
Donc c'est quand même pas. C'est vrai que c'est la sortie. Il y en a peut-être plus des verrillettes dedans, mais enfin voilà, c'était pas complètement idiot de toute façon de le faire.
Donc j'ai demandé, j'ai fait intervenir plusieurs spécialistes. Alors le premier est venu, il m'a dit ce sont des verrillettes de bois, je peux rien faire, et il est reparti.
Ah oui.
Le deuxième m'a dit, ce sont des lictus bruns, je peux rien faire, il est reparti. Et le troisième m'a dit, ce sont des vrillettes de bois, on peut traiter, on fait un carottage, on insecte, on injecte un produit sur toutes les portes, et ça vous coûte 100 euros par porte, plus 150 euros de déplacement.
Mais il vaut mieux remplacer la porte, quoi. Pratiquement. Non mais, attendez, d'abord, la taille des trous, c'est quoi?
C'est 2-3 mm.
Alors 2-3 mm, c'est sûrement pas de la vrillette. La vrillette, c'est vraiment la piqûre, vous savez, le trou de verre dans les meubles. C'est-à-dire c'est moins d'un millimètre de diamètre.
Donc là c'est plus gros. Non,
voilà, c'est plus gros, ça a toutes les chances d'être des lictus. Les trous sont perpendiculaires au bois. Quand vous passez un ongle, vous n'ouvrez pas carrément une saignée, je veux dire.
Ben non, de toute façon, le bois est quand même, en principe, il est très dur. Oui. Donc, si vous voulez, il y a...
Oui, mais même très dur, si vous voulez. Non, c'est pour l'identification. Parce que d'accord. Si vous aviez des trous plus gros et des trous qui sont parallèles à la surface du bois, ce seraient des capricornes. Donc,
ce ne sont pas des capricornes,
donc ce sont des ictus. Alors, le problème, effectivement, c'est que votre chambranle, il ne doit pas être en bois exotique, lui. Il doit certainement être en feuillu. Alors, votre maison, elle était construite comme cela ou vous avez acheté ensuite les blocs-portes ?
Non. La maison a été construite d'origine avec des blocs-portes intégrés.
Je tenterai le coup de la décennale. Hein. Ça va être difficile. D'abord, est-ce que vous aviez pris une assurance dommage ouvrage ?
J'ai pris ça.
Bon, alors commencez par saisir votre assurance en disant la maison n'a pas 10 ans, certains éléments sont fragilisés de telle sorte que finalement ça peut-être rentrer dans la garantie décennale. Hein. Donc, de toute façon, vous risquez pas grand-chose à le faire.
Hein. Non, c'est sûr. C'est
voilà, commencez par ça. Ensuite, alors, effectivement, ce qu'il faut faire, ce sont là des injections et autant pour des vrillettes. Ce que vous avez fait collerait, c'est-à-dire que l'injection avec faut avoir de la patience hein, pour injecter dans tous les trous.
Ah oui, j'en ai eu.
Ah bah oui, vous en avez eu. Et donc ça n'a pas forcément donné. Alors faut voir aussi le type de produit que vous avez utilisé. Maintenant, il y a des produits qui sont moins nocifs pour l'homme et plus nocifs pour les bébêtes. Ce sont des produits qu'on a qualifiés d'écologiques au sens large du terme, dont ça n'empoisonne pas les bestioles, ça les stérilise d'une certaine manière. Ensuite, le ver du bois, puisqu'on va appeler ça des vers du bois, n'a plus d'appétit. Il reconnaît plus la cellulose. Donc, ça existe. Ce sont des produits. Il faut aller un petit peu fouiner dans. Vous parliez d'une marque Xylophane. Ils en ont. Il y a des gammes de produits comme celle-là. Alors ensuite, c'est véritablement là. Je pense qu'il faudra passer véritablement de l'injection. Mais l'injection, elle se fait sous pression. Et effectivement, moi, dans ce que vous me décrivez, c'est le problème, c'est que c'est une chambranle, c'est que c'est quelques centimètres de large. Et donc, on peut pas y mettre une injection avec une douille d'injection qui fait déjà un centimètre elle-même de diamètre, quoi.
Ah, c'est ce qu'ils m'ont proposé, hein, c'est de faire donc à peu près 12 trous par
chambranle. Alors attendez, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Chez Wagner, par exemple, qui est le grand spécialiste des pistolets à peinture, ils ont un pistolet qui existe avec des buses d'injection, et puis vous mettez de l'insecticide dedans. C'est pas du tout impossible. Sauf que là, vous imaginez bien que si vous faites des trous dans un chambranle, ça va se voir, quoi. Donc après, il faudra peut-être peindre plutôt que de laisser le bois nu comme on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi un effet qui peut être décoratif aussi, c'est vous répartissez les trous d'injection par exemple tous les 5 cm, tous les 10 cm, et ensuite vous rebouchez votre trou avec un tourillon, un morceau de cheville de bois en quelque sorte, que vous allez raboter, que vous teintez. Donc ça peut donner un effet, si vous voulez, comme si c'était un bois d'assemblage. Voilà un peu une des astuces à donner. Mais n'allez pas effectivement dépenser des fortunes, ou alors vous remplacez votre bloc-porte, mais si vous en avez un paquet et qu'ils sont tous atteints. Mais jouez le coup de l'assurance dommage ouvrage. Parce que et puis sinon vous pouvez aussi peut-être assigner le constructeur, le CMiste qui vous a fait la maison au titre de tout simplement de la garantie légale. Pourquoi pas des vis cachés, parce que effectivement des vrillettes c'est caché.
Et oui, c'est ça le truc.
Enfin, des lictus, là, plutôt.
Christian, oui. On termine avec votre coup de cœur de ce samedi matin. Oui, on va parler d'énergie.
Voilà, mon coup de cœur, on va parler d'Engie, qui a lancé un programme qui s'appelle Mon Programme pour Agir, vise à inciter ses clients à consommer moins et à consommer mieux. Alors, c'est pas mal, ça récompense les clients dont la consommation apparaît à la baisse. C'est un peu schizophrénique pour une boîte qui vend de l'énergie, mais c'est comme ça. Alors qu'à chaque fois que vous baissez votre consommation, vous gagnez des kilowatts qui vous permettent de convertir ensuite dans des actions positives la reforestation, les hôpitaux aujourd'hui, la fondation, je crois, des hôpitaux de France, qui permet aussi d'obtenir des petits objets qui permettent d'économiser l'énergie, par exemple des prises connectées, un économiseur d'eau de robinet.
Oui, c'est très vertueux, en fait.
C'est très vertueux. Donc, j'ai trouvé que ça valait le coup. Ça va engager 5,5 millions de foyers, soit 12 millions de Français. Là, il va y avoir quand même de l'impact. Je trouve que c'est une très, très belle chose. Et puis, un coup de cœur pour Engie aussi, qui, dans la situation actuelle, rembourse pour le mois de mai et pour le mois de juin l'abonnement aux clients aidés, ce qu'on appelle les clients aidés, qui bénéficient du chèque énergie et du fonds de solidarité. Donc bon, c'est pas un geste énorme puisque c'est 10 euros par mois, mais je trouve que ça participe, parce qu'il faut pas oublier que quand on a 600 000 clients, on peut faire le calcul, même si c'est 10 euros, ça veut dire que c'est 12 millions d'euros.
Ouais, c'est
donc c'est quand même
bon, c'est pas mal. Après l'échelle d'Engie, 12
oui,
millions d'euros.
Bien sûr,
Vous avez raison,
on va donner un petit coup de cœur. C'est rare que je cite une entreprise, mais ça me paraît une bonne chose. Et puis surtout, le programme donc, d'action en profondeur, c'est très bien.
Christian PC, donc, pour terminer ce rendez-vous maison. Christian, on se retrouve samedi prochain,
on sera là.
Entre 7h et 8h et dans un instant, c'est notre docteur qui arrive. Bonjour Christian.
Oui, d'un commun accord avec moi-même, j'ai décidé de nommer Christian PC patron de l'hygiène et la propreté à Paris. Ce matin, quand je pars à l'hôpital, à la Pitié-Salpêtrière, le quartier est épouvantablement sale. Pourtant, il y a de moins en moins de Parisiens. Donc je dis à Madame la maire de Paris, vous n'êtes pas bonne, c'est pas bien, votre politique est mauvaise, votre ville est sale. Et ben, en ce moment, pour le Covid, il faudrait que la ville soit propre, ça serait un minimum. Merci Madame la maire de m'entendre.
Voilà. C'est vrai que je trouve que Paris est particulièrement sale.
Mais oui,
en ce moment.
Oui. Mais je pense qu'elle n'a pas compris ce que c'était.
Non, mais alors peut-être aussi qu'il y a moins de fonctionnaires qui travaillent.
Il y a toujours une excuse.
Oui, c'est sûr. Non, mais j'essaie de comprendre pourquoi.
Moi, c'est inexcusable.
Christian Ricciard est remonté comme une pendule, les amis.